Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ce discours qui donne du sens à l'action du Conseil départemental et qui montre qu'on est vraiment engagé dans tous les domaines vers la bifurcation écologique. Je vais laisser la parole à nos amis du CEREMA qui vont se présenter et nous donner le portrait climatique de la Haute-Garonne en 2050.
Monsieur le Président, Monsieur Keller, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci de nous accueillir pour cette journée. Je suis Cyril Portalès, directeur territorial du CEREMA en Occitanie. Je suis accompagné d'Aurélien Mur et de Claire Dollet qui ont piloté le projet, le portrait climatique qui vous est présenté. Ce portrait s'intègre dans une démarche un petit peu plus large, de démarche d'analyse des vulnérabilités du changement climatique au changement climatique en Haute-Garonne. Et nous sommes très heureux d'être engagés dans cette démarche pour trois raisons. L'importance du sujet, et le Président l'a abondamment rappelé, surtout dans un département qui est autant engagé vers ce sujet de la bifurcation, pour éviter de prendre le mur, comme c'était rappelé dans cette image. Également parce que nous sommes un établissement public dont l'ADN est de travailler sur des problématiques scientifiques et techniques complexes, de faire du développement méthodologique, mais pas en chambre, en le confrontant à la réalité, en étant aux côtés des élus, en étant sur les territoires et en se frottant au réel de manière à apporter une connaissance qui mixe de la science, de la technique, mais aussi du vécu. Et donc on est très heureux de pouvoir le faire pour ensuite en tirer des retours d'expérience et contribuer à massifier des actions dont on sait que l'on a besoin. Et je crois qu'on peut avoir beaucoup d'humilité devant la difficulté de la tâche, parce qu'avoir une démarche globale, systémique, mais en même temps qui débouche sur une action opérationnelle, n'est pas chose aisée. Et c'est d'ailleurs la troisième raison de tout l'intérêt de cet engagement, c'est qu'on est dans un département novateur, dans le benchmark qu'on a pu faire, on a 4-5 départements en France qui ont déjà lancé une démarche de cette ampleur, de cette nature, et on est très heureux donc de le faire en Haute-Garonne. On a travaillé avec le Lot il n'y a pas si longtemps que ça, d'avoir cette démarche qui va permettre, au-delà des compétences territoriales d'un conseil départemental, d'avoir une vision du territoire pour embarquer les différents échelons qui agissent sur le territoire. Et d'ailleurs, à l'échelle nationale, le CEREMA a lancé un travail avec une quarantaine de collectivités de différents niveaux, je dirais de communautés de communes, métropoles, de manière à essayer de glaner un maximum de références sur comment on fait pour développer une stratégie d'adaptation au changement climatique, grand sujet sur lequel je crois qu'on est tous très modestes et on se dit comment faire, comment aller dans ce comment une fois que le pourquoi et la direction est bien connu. Je n'en dirai pas plus, je passe la parole à Claire.
Bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter sur une petite vingtaine de minutes donc le portrait climatique à horizon 2050 de la Haute-Garonne, qui est en fait une première phase, comme l'a rappelé Cyril Portalès, d'une étude beaucoup plus vaste qui s'intitule « Le diagnostic des vulnérabilités au changement climatique des territoires haut-garonnais ». Cette démarche d'étude s'inscrit dans le champ de l'adaptation, mais complètement complémentaire aux actions dites d'atténuation, donc qui visent par différents leviers d'action à réduire très fortement nos émissions de gaz à effet de serre. Pour la plupart des territoires, beaucoup d'actions ont été mises en œuvre dans ce sens depuis de nombreuses années. Malheureusement, le climat au niveau mondial continue de poursuivre une courbe de réchauffement ascendante, qu'on estime à peu près plus 4 degrés pour la France métropolitaine à horizon de 2100. Et donc, voilà, pour éviter une situation vraiment ingérable en termes de vie de nos sociétés humaines sur le territoire, il faut poursuivre ces efforts d'atténuation dans tous les cas. Mais en même temps, le climat se réchauffant, on est sur une situation qui est inévitable et donc il faut gérer cet inévitable en couplant ces mesures d'atténuation avec des mesures dites d'adaptation. Donc il faut vraiment renforcer maintenant le champ de l'adaptation. Et sur vos territoires, le défi majeur, c'est vraiment d'arriver à coupler ces démarches d'atténuation avec maintenant des démarches d'adaptation. Donc le portrait climatique, donc, qui est sur ce schéma à droite, l'analyse de l'exposition différenciée sur votre territoire du climat horizon 2050, est une partie d'un processus d'étude plus global dont l'objectif final est de définir les vulnérabilités au changement climatique avec la plus grande finesse territoriale possible sur la Haute-Garonne. Et donc pour ce faire, on va croiser ce portrait climatique avec ce qu'on va appeler l'analyse des sensibilités intrinsèques sur une quinzaine de thématiques, qui va consister en fait à détecter un certain nombre de faisceaux d'indices cohérents pour arriver à dire qui est vulnérable, quoi, combien, où. Donc si on prend l'exemple par exemple de la population, on va s'attacher dans ces faisceaux d'indices à rechercher sur le territoire où sont par exemple les personnes les plus âgées, donc celles qui ont une sensibilité intrinsèque plus forte en termes de santé, où sont les personnes précaires, aux faibles revenus, qui auront des capacités d'adaptation plus faibles, où sont les territoires qui pourraient souffrir d'isolement par rapport à l'éloignement au centre de soins, d'isolement géographique possiblement aussi par la rupture d'infrastructures de transport qui pourrait rendre le secours à ces personnes plus compliqué en cas d'aléa climatique renforcé. Donc c'est l'ensemble de ces faisceaux d'indices qu'on va regarder, qu'on va ensuite croiser au portrait climatique. Une sensibilité ne va pas être forcément synonyme de vulnérabilité de la même manière selon l'endroit du territoire où on va se situer. Donc ces deux grands blocs d'études ont été réalisés et vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'année par l'analyse des vulnérabilités. En parallèle, le département a souhaité qu'on réalise un séminaire de formation, action, à l'intention de ces cadres, qui a lieu début juin, pour vraiment mener une appropriation en fait, de ce processus et de cette démarche, et vraiment les faire participer à la démarche de territorialisation. Cette analyse de vulnérabilité, elle est systémique, c'est-à-dire qu'on, comme on l'a dit, en fait, elle va être réalisée sur tout un nombre de thèmes. Elle est complexe. Rien que ce schéma, en fait, vous voyez la complexité. Ce schéma, c'est une fresque des vulnérabilités au changement climatique qui essaye de montrer les liens de cause à effet par ces traits entre, à gauche, donc colonne de gauche rouge, le changement des paramètres climatiques, qui va induire des changements dans la colonne suivante, c'est-à-dire tous les aléas et risques naturels déjà connus sur le territoire, paramètres climatiques qui vont aussi directement agir sur les ressources naturelles du territoire, donc la qualité de l'air, l'eau en termes de qualité, de quantité, la biodiversité, les milieux naturels, les sols, tout notre environnement va être impacté par le changement climatique. Et dernière colonne de droite en bleu, la population, c'est-à-dire ses caractéristiques, sa santé, sa sécurité, son mode de vie, la manière de se déplacer et toutes les activités économiques, que ce soit l'agriculture, l'industrie, le tourisme, la production d'énergie, en cascade, tout va être impacté par le changement climatique. Et donc c'est vraiment cette logique de système et de compréhension du système qui était importante pour nous aussi à faire comprendre dans cette étude, parce qu'en tant que décideur public, les actions qui seront menées potentiellement sur l'un ou l'autre de ces sujets, sur ces thèmes, que ce soit les aléas, les ressources naturelles, voire les activités, l'idée c'est vraiment de comprendre que tout est interconnecté et que chaque action peut avoir un effet sur tout un ensemble de sujets. Tu voulais rajouter quelque chose, Jean ?
Donc sur, bonjour à tous, sur le diagnostic de vulnérabilité au changement climatique qui sera livré au département et co-construit avec les services du département qui ont une très bonne connaissance de leur territoire aussi, l'objectif c'est de décliner sur les thématiques que vous voyez là, plutôt en aval de ce schéma, sur le territoire, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, quelles parties du territoire vont être le plus touchées, décliner des indicateurs par thématique pour que le département ait ensuite les armes pour construire une stratégie et potentiellement un plan d'action derrière, et être capable aussi de remettre en perspective la question du changement climatique avec les autres pressions que l'humanité met sur elle-même par l'effondrement de la biodiversité, etc. L'objectif, ça va être d'être capable de mettre tout ça en regard des autres thématiques.
Donc, rapidement, deux éléments de méthode, je serai assez brève. Donc, cette étude de diagnostic des vulnérabilités va être basée sur un découpage en fait, de votre territoire qui a été décidé en fait, avec le département en 9 grandes entités. Donc, vous les voyez ici sur la carte. Ces 9 grandes entités sont directement issues de votre atlas des paysages de la Haute-Garonne qui en comportait un petit peu moins d'une trentaine. Et donc ces entités paysagères, nous les avons choisies parce qu'elles sont le reflet en fait de la vie des habitants sur le territoire, de l'occupation du sol, mais aussi des modes de vie. Et donc c'était vraiment un support assez naturel pour évaluer les impacts et les effets du changement climatique. Le deuxième élément de méthode pour bien comprendre ce qu'on a essayé de faire dans le portrait climatique et sur quoi on a travaillé. Sur ce schéma, vous voyez donc en abscisse, en horizontale, la courbe du temps, en verticale, en ordonnée, la hausse des températures. Et vous voyez cette courbe noire qui est le niveau de réchauffement actuel. C'est la trajectoire de réchauffement actuel sur laquelle la France métropolitaine est engagée. Les deux histogrammes de droite, si j'arrive à vous les montrer, donc ici et ici, donc aux horizons temporels de climat 2050 et 2100, sont deux projections qui sont issues de modèles mathématiques fabriqués par Météo France à partir de données climatiques qui sont ici sur cette période dite de référence de 1976 à 2005. Pour l'instant, ces projections ne sont accessibles qu'à partir de ce modèle de référence. Donc nous, ce qu'on s'était forcé de faire dans le portrait climatique, c'est de mesurer en fait l'écart entre cette projection à 2050 et ce climat dit de référence. Qu'est-ce qui va se passer entre les deux sur un certain nombre de paramètres? Et donc, vous voyez que le climat actuel, la norme climatique actuelle, qu'on peut entendre chaque jour dans les actualités météo, se base sur des données de 91 à 2020. C'est le climat tel que Météo France le décrit. Et il se situe clairement dans une zone de transition entre ce climat passé dit de référence et ce climat futur. Donc concrètement, quand on va afficher ici, en 2050, une hausse de la température de plus de 2 degrés, il faut bien comprendre que c'est par rapport au climat de référence. Et donc le climat dans lequel nous vivons a déjà eu un réchauffement de 0,5 degrés par rapport à ce climat de référence. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que la courbe ascendante va être nettement plus incliné. Et donc, le chemin à parcourir d'ici 2050, c'est 1,5 degré pour atteindre plus de 2 degrés de réchauffement. Donc, le réchauffement va continuer de s'accélérer.
Et on en profite pour faire une petite mise en cohérence avec ce que M. le Président a décrit comme données tout à l'heure, avec les plus 1,7 degrés entre le début du XXIe siècle et la dernière décennie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évolution du climat, elle est souvent donnée sur des périodes de 30 ans. Et c'est pour cela que nous, on estime qu'il y a 0,5 degrés d'écart entre 76-2005 et 91-2020. Mais le réchauffement, il est très accéléré. Et sur la dernière décennie qu'on vient de vivre, c'est presque une anomalie par rapport à ce que décrivaient les rapports du GIEC. Et ça nous donne à voir le climat futur.
Donc si on passe à la description du climat de la Haute-Garonne, donc d'un point de vue de l'organisation de ce climat en termes géographiques, c'est intéressant de s'y pencher un petit peu parce qu'en fait, la projection à 2050 va vraiment être le reflet de cette organisation globale. Donc vous voyez ici à gauche la carte sur les moyennes annuelles de température, à droite le cumul annuel des précipitations. Et donc on voit clairement que sur ce département se lie assez bien un gradient diagonal nord-est-sud-ouest. Donc on aurait pu dessiner par une flèche dans ce sens. Où suivant, grosso modo, cette diagonale, il fait schématiquement plus froid et plus humide en allant vers les Pyrénées. Si on prend comme référence les deux villes de Toulouse et Luchon, donc sur Toulouse, on va avoir plus 3 degrés de moyenne annuelle par rapport à Luchon, et sur Luchon, on va avoir deux fois plus de pluie que sur Toulouse. Ce qui est important de noter aussi sur ce département, c'est que la saisonnalité des pluies est inversée et différente le long de cette diagonale. Les mois les plus pluvieux sont plutôt le mois de mai au nord et le mois de novembre au sud.
Et Pour cette présentation, pour cette slide, je ne vais pas rajouter grand-chose à ce que M. le Président a dit tout à l'heure, puisque c'est à retenir une vraie méditerranéisation du climat qu'on attend, avec le nord du département qui est plus sur un climat du bassin du sud-ouest, mais qui va avoir de plus grosses différences de température entre l'été et l'hiver, ce qui est une marque, par exemple, de la méditerranéisation. Même chose sur les précipitations, plus d'écart entre l'été et l'hiver. Et on assistera à une remontée des climats vers le sud et vers l'altitude surtout. Donc les climats océaniques vont redescendre et le climat montagnard va se repousser plus haut en altitude. Très rapidement sur la méthode, pour vous donner à voir sur les projections climatiques, on a utilisé les données de Météo France, mais aussi plus largement de toutes les modélisations qui sont dans le cadre du 5e rapport du GIEC. Donc ils sont sur des mailles de 8 km par 8 km sur votre département, donc soyez bien conscients que ça peut masquer des nuances territoriales fines, des influences de cours d'eau, des influences de relief assez fines, typiquement dans les Pyrénées. Donc pour décliner les projections climatiques, il faut choisir des scénarios, et on a choisi en cohérence avec le département de se placer sur les scénarios plutôt pessimistes mais qui sont en accord avec la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique de Météo France aussi. Et elles sont très cohérentes par rapport à la politique qui est menée ici, et elles sont en accord avec le fait que les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas du tout sur une courbe qui tend à descendre, et donc il vaut mieux se préparer à ce qu'elles ne le soient pas rapidement à l'échelle mondiale en tout cas. Et ensuite, c'est de l'analyse de données en indicateurs sur les températures, précipitations, ressources en eau, etc., qu'on va vous décliner avec une importance de bien comprendre ceux qui sont robustes et ceux sur lesquels on est sûr des évolutions à venir.
Donc l'interprétation de ces 17 indicateurs en 4 catégories, donc les 4 catégories, on les rappelle, hein, tous les paramètres liés à la température, aux précipitations, au sol et à la végétation et tous les impacts liés à l'eau ont été analysés, et cette analyse a mis en évidence 4 grands groupes cohérents géographiques en Haute-Garonne qui présentent des similitudes aussi bien en termes de climat que de projection climatique, et donc qui nous a permis de construire une synthèse avec des planches comparatives sur différents indicateurs pour pouvoir justement évaluer la différence d'exposition entre ces différentes zones. Comme l'a dit Aurélien, nous nous sommes attachés à vraiment faire la part des choses entre les indicateurs qui étaient dits robustes et ceux qui l'étaient beaucoup moins, pour passer des messages relativement clairs et solides en termes de future analyse de la vulnérabilité. Tous les paramètres les plus robustes étant ceux liés à la température, où tous affichent clairement une hausse très nette et significative.
Alors pour vous matérialiser un petit peu le réchauffement passé et attendu sur le futur, on vous a réalisé une petite animation qui déroule sur la station Toulouse-Blagnac jusqu'en 2020 les données d'observation d'anomalies de température mensuelles. Donc plus on est écarté du centre, plus le mois a été particulièrement chaud par rapport à une référence commune. On voit qu'il y a des hivers particulièrement froids avec des anomalies de température assez fortes sur le milieu du 20e siècle. Et plus on avance dans le temps, plus on voit que l'anomalie s'écarte et on commence à dépasser à chaque fois les barrières qui sont en jaune sur le graphique. À partir de 2020, c'est des données de projection climatique, de modélisation. Ça ne veut absolument pas vous dire qu'en mars 2083, il va faire 21,8 degrés de moyenne. C'est une représentation du climat futur selon les scénarios du GIEC. On voit qu'on va dépasser toutes les barrières, donc plus 4, plus 6, on verra même apparaître la barrière plus 8 degrés sur la fin du siècle. Ça vous matérialise le fait qu'un niveau de réchauffement moyen qu'on vous affiche, qui peut être 2, 3, 4 degrés, il n'est pas suffisant à comprendre les nuances des vrais impacts du changement climatique et la violence de certains événements avec des anomalies de température pour un mois qui vont pouvoir aller jusqu'à plus 8 degrés et qui ont des impacts bien supérieurs à ceux de l'évolution moyenne simplement. Je passe à la suite. Donc pour les messages clés sur l'évolution des températures, sur l'augmentation des températures, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une augmentation sur toutes les saisons et qu'elle va être plus marquée dans les Pyrénées que dans les restes du département. C'est une vérité générale que l'augmentation de température est toujours plus marquée en montagne et au pôle que sur le reste de la planète. Cette augmentation de température, elle amplifiera le phénomène d'îlot de chaleur urbain qui est déjà présent. Elle ne va pas le modifier, mais elle l'amplifiera parce que les températures seront plus élevées. les canicules vont être beaucoup plus fréquentes, les nombres de nuits tropicales aussi, avec des soucis pour la santé humaine, mais pas que. Donc il y a une diminution du nombre de jours de gel, mais pas forcément la diminution du risque, par exemple, pour l'agriculture qui est associée, on va en reparler. Et je vais passer aux précipitations. Pour les précipitations, il y a quelques messages clairs, mais une variabilité qui est beaucoup plus grande et qui est due aussi à une grande variabilité interannuelle des précipitations et qui va probablement encore augmenter. Donc on va avoir plus d'écart entre les années pour les précipitations. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'évolution des précipitations moyennes annuelles, certains modèles disent qu'il y aura moins d'eau, d'autres disent qu'il y aura un petit peu plus d'eau. Donc ce n'est pas sur ce paramètre annuel qu'on va préciser l'étude, et ce n'est pas sur celui-là qu'il est intéressant de tirer des conclusions. C'est plutôt sur le fait qu'il y aura plus d'eau en hiver, de l'ordre de 10% sur le département, avec sur le versant gersois de la Garonne jusqu'à plus 25 mm pour la saison hivernale. Et pour l'été, on va avoir une baisse assez significative, donc jusqu'à moins 50 mm, ce qui peut poser de nombreux soucis pour la ressource en eau, même si on estime que cette évolution peut ne pas être énorme. Elle a de réels impacts, parce qu'elle n'est pas toute seule à avoir l'impact sur la ressource en eau. Il y a aussi les questions de sécheresse du sol, avec une moins bonne infiltration de l'eau, une plus grande évapotranspiration qui va nous complexifier le stockage de l'eau, parce qu'il y a une plus grande partie qui va s'évaporer. Et donc dans ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a aussi une diminution des chutes de neige et une fonte qui sera très accélérée. À retenir aussi l'évapotranspiration qui va changer. Donc ça a des impacts pour l'agriculture et pour les questions de ressources en eau. Les sécheresses et les cycles plus accélérés de sécheresse et fortes précipitations vont augmenter les risques de glissement de terrain. Pour ce qui est plus spécifiquement de l'enneigement, on peut retenir qu'on s'attend à une perte de 2 mois dans la période d'enneigement sur la Haute-Garonne et une remontée en moyenne de 300 mètres du manteau neigeux. Et sur la question de l'enneigement, il est aussi important de prendre en compte la variabilité interannuelle qui va probablement augmenter. Vous avez à droite, sur le schéma, les projections à 2050. Vous pouvez attendre que la hauteur d'un mètre sur le mois de février sera attendue autour de 2400 mètres d'altitude. Mais en fait, c'est une moyenne et très probablement, il y a beaucoup d'années qui vont avoir probablement jamais un mètre de neige en épaisseur sur le mois de février à 2400 mètres d'altitude. Et donc, c'est un vrai souci pour les questions opérationnelles des stations de ski, par exemple. Et on vous les a matérialisées avec les flèches violettes. C'est les altitudes des stations de la Haute-Garonne qui vont parfois avoir une année 130 cm au bas des pistes. Donc, ça pose des questions d'opération. Sur toujours la ressource en eau, l'évolution des débits des cours d'eau est un paramètre qui est assez incertain, mais sur lequel toujours il y a des tendances qui peuvent être assez claires. Une augmentation des débits des cours d'eau en moyenne en hiver et une diminution des très bas débits en été. Les très bas débits, que ce soit sur la Garonne, le Tarn ou l'Ariège, pourront aller jusqu'à moins 50%. Et c'est toujours la question de la moyenne, c'est-à-dire que les années les plus sèches pourront être bien plus violentes que la moyenne. Et tout ceci est dû à plus d'évapotranspiration, moins de manteaux neigeux, des recharges de nappes qui sont perturbées aussi par les sécheresses. Et donc comme vous le savez, la ressource en eau sera une des thématiques les plus impactées par le changement climatique. Pour ce qui est du sol et de la végétation, pour les questions agricoles et de biodiversité, la croissance de la végétation sera plus précoce et plus allongée sur l'année. Il y a une augmentation du stress thermique qui sera assez claire à la fois pour le végétal comme pour les animaux et les animaux d'élevage en particulier. Les dates des récoltes pour les grandes cultures seront plus précoces et le changement des mécaniques de ruissellement de surface pourra avoir un impact assez fort sur l'agriculture, tout comme la modification de la recharge des eaux souterraines. Il y a des zones sur le département sur lesquelles le risque incendie va apparaître, comme ce qui avait été mentionné par M. le Président au départ avec des incendies d'hiver en montagne. Et la période de sécheresse des sols va largement s'étendre. Vous avez sur l'image qui est à droite une illustration de quelle partie du territoire va le plus s'assécher. Et on voit que c'est le piémont pyrénéen qui va avoir le plus de modifications en nombre de jours de sol sec. Et comme je le disais tout à l'heure, le nombre de jours de gel va drastiquement baisser, mais le risque qui est associé avec le gel, par exemple pour le gel tardif, ne va pas particulièrement baisser. Parce que les phénomènes de gel tardif vont arriver à un moment où la végétation sera à un stade phénologique beaucoup plus avancé et donc à un moment où la végétation sera beaucoup plus vulnérable. Donc vous pouvez diminuer par 4 le nombre de jours de gel à l'année, le risque de destruction des cultures sera toujours présent et peut-être plus fort parfois. Donc quelques chiffres clés pour finir, mais je passe rapidement. Sur l'agglomération toulousaine, on peut s'attendre en 2050 à jusqu'à 90 nuits tropicales, donc à plus de 20 degrés avec le phénomène d'îlot de chaleur urbain, ce qui pose de réelles questions d'un logement au centre-ville de Toulouse pour la santé humaine la nuit en été. Des canicules sur le reste du département, par exemple sur la vallée de l'Ariège, qui seront 5 fois plus importantes, et un nombre de jours de gel sur les Pyrénées qui va baisser de 40%. Voilà pour quelques illustrations. Pour ce qui est des événements extrêmes, la communauté scientifique prend des pincettes sur leur évolution, même s'il y a encore une fois quelques tendances qui sont assez claires. On estime que les événements de précipitation extrêmes vont devenir 3 fois plus fréquents, que la grêle, par exemple, va devenir plus destructrice parce que le mécanisme de formation des grêlons va donner en moyenne des grêlons qui sont plus gros, donc plus destructeurs. Les tempêtes pourront être moins fréquentes, mais plus violentes, donc le risque associé va plutôt évoluer vers le pire. Et l'évolution des vents est, elle, assez méconnue, tout comme les tornades, par exemple. Donc voilà pour les questions de généralisation du portrait climatique et les messages clés qu'on a pu vous donner aujourd'hui. Donc j'espère que la présentation qui suit vous permettra aussi de prendre du recul et remettre le changement climatique en perspective avec d'autres pressions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, et on vous remercie pour votre attention.